de langue à Howard University, toujours dans la capitale fédérale américaine. René Lecq, analyste politique, merci à tous d'être avec nous. Alors, Suleyman, quand on dit Martin Luther King, on pense d'abord à la non-violence hein, pour beaucoup. Le débat contradictoire et la recherche de consensus sont devenus quand même presque une chimère au profit du manichéisme, n'est-ce pas? Dans un tel contexte aujourd'hui, comment rendre la philosophie de King toujours actuelle?
Oui, bonjour Abdelrahman, et vous avez raison de souligner que le propos de King semble aujourd'hui quelque peu décalé. Nous vivons, vous l'avez dit, dans un monde du manichéisme où tout est soit blanc, soit noir, dans un monde également du cynisme, finalement, où on a le sentiment que la victoire à tout prix, remporter une victoire est infiniment plus important qu'avoir véritablement raison. Plutôt que d'avoir raison moralement, ce qui était le moteur même de la pensée de Martin Luther King, on cherche plutôt à avoir raison de l'adversaire, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de climat tout à fait tribaliste, où il s'agit vraiment de la victoire d'une tribu contre une autre tribu. Et on peut s'interroger sur ce décalage entre ce propos au fond optimiste, plein d'optimisme, plein de foi et idéaliste de Martin Luther King, son insistance sur la non-violence à une époque pourtant qui était une époque bien plus rude que celle que nous vivons aujourd'hui. Et il faut se rappeler à ce moment-là que la meilleure manière de combattre le cynisme ambiant, ce n'est pas d'en rajouter dans le cynisme, mais précisément de retrouver cette flamme et cet optimisme de Martin Luther. Cette confiance qui était la sienne, qu'au bout du compte, l'arc moral de l'univers va toujours incliner vers la justice.
Alors, Marilyn, grâce à Dr. Martin Luther King et d'autres militants, l'Amérique a eu son Civil Rights Act et son Voting Rights Act. Alors, comment est-ce qu'il verrait aujourd'hui les États-Unis? Entre-temps, on a eu un président africain-américain, une vice-présidente femme et africaine-américaine également d'origine indienne, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il verrait l'Amérique aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je pense que son regard sur l'Amérique serait assez mitigé, parce que d'une part, il y a eu, comme vous l'avez dit, ces victoires qui représentent tout à fait ces idéaux, qui représentent tout à fait son combat, le résultat de son combat. Mais d'autre part, il y a eu évidemment entre-temps l'élection de Donald Trump. Entre-temps, il y a eu des extrémismes qui se sont installés, qui se sont incrustés dans le paysage politique américain. Et entre-temps, il y a eu, si vous voulez, une resurgence du racisme, comme on l'a vu, mais qui se manifeste non seulement au quotidien, mais qui est vraiment maintenant ancré dans la politique américaine. Et donc, je pense qu'il serait un regard à la fois encouragé, mais aussi extrêmement déçu de l'évolution politique récente des États-Unis.
D'accord. Alors, René Lecq, des thèmes comme la non-violence mobilise-t-il toujours, selon vous? On a vu que la violence est très présente dans le discours, aussi bien politique, mais également dans la rue.
Oui, je crois que oui, parce que, vous savez, Abdelrahman, le niveau de remise en cause des droits acquis par les minorités dans ce pays, que ce soit les Noirs, les femmes, les Latinos, les Native Americans, donc les Indiens d'Amérique, le niveau de remise en cause de leurs droits, notamment avec la dernière administration, était extrêmement élevé. Je pense même, de mon point de vue, très, très violent. La remise en cause était très violente, devrais-je dire. Et je crois que, malgré tout, la réponse jusqu'à présent a été une réponse extrêmement pacifique. Le mouvement Black Lives Matter, que l'on a connu il y a 2 ans, est resté, somme toute, il y a toujours des petites escarmouches ici et là, mais de manière générale, est resté très pacifique. Donc les réponses jusqu'à présent sont très pacifiques, sont très non-violentes. Elles se font toujours dans le cadre institutionnel du jeu démocratique dans lequel le pays se meut depuis des années. Mais malgré tout, Je note que de l'autre côté, les remises en cause, elles, sont beaucoup plus violentes, tant d'un point de vue institutionnel que d'un point de vue politique.
Et Souleymane, quand on voit la naissance justement d'un mouvement comme le Black Lives Matter, est-ce que vous pensez que c'est un peu la roue de l'histoire qui tourne naturellement ou bien c'est parce qu'on fait un peu de surplace depuis les années 60?
Je crois que on peut considérer le mouvement Black Lives Matter comme une sorte de réincarnation pour notre temps de ce qui a eu lieu à l'époque de Martin Luther King quand il s'est agi de mettre en branle le mouvement des droits civiques. Black Lives Matter est d'une certaine façon effectivement un recommencement, mais un recommencement à un niveau différent et pour une époque et une situation différente. Le combat de Martin Luther King pour les droits civils de son époque, les droits civils de son époque, pour le vote, etc., ce n'est pas exactement le combat des Black Lives Matter contre le racisme dit structurel, le racisme tel qu'il est inscrit, par exemple, dans le système de justice, de la justice américaine, dans le système pénal, dans le système judiciaire, etc., etc. Et ce n'est pas non plus le même combat contre le racisme structurel inscrit dans les institutions. Par conséquent, oui, on peut estimer que cette génération Black Lives Matter reprend à son compte une histoire qui est une histoire des droits civiques en général aux États-Unis, telle qu'elle a été menée par Martin Luther King, mais reprend cette histoire selon ses propres termes et selon la traduction qu'exige le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Et Marilyn, pour parler un peu de Dr. King également, on parle plus souvent de son discours « I have a dream », mais il y a aussi son discours qui est tout aussi important « Beyond Vietnam », dans lequel il revient sur son thème préféré, la non-violence, mais également dans lequel il réaffirme sa position contre la guerre du Vietnam. Alors pourquoi ce discours est toujours d'actualité pour vous?
Alors ce discours pour moi est encore davantage d'actualité que le discours « I have a dream ». « I have a dream », c'est l'expression véritable de rêve, l'expression d'un idéal, tandis que « Beyond Vietnam », à mon avis, c'est un discours qui vraiment fait état de toute la problématique américaine et qui insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de résolution de la société américaine, il ne peut avoir de résolution que dans le cadre d'un véritable refondement de la nation, d'une véritable réaffirmation de la nation américaine et dans une véritable remise en question de ce que l'Amérique représente. Et qu'il faudrait y avoir une sorte de réconciliation, si vous voulez, entre les différentes composantes de la nation américaine. Et donc, c'est un véritable discours qui mérite davantage même d'être appris dans les universités, dans les écoles, que « I have a dream ». Parce qu'il étale vraiment tous les mots dans ce discours de la nation américaine et propose des solutions concrètes tant au niveau national qu'au niveau international, puisqu'au niveau international ces mots se reflètent également, parce que l'entreprise de Vietnam, c'était un véritable soutien au colonialisme français au Vietnam. Donc là-dessous, en dessous, il y avait évidemment toute une question raciale qui se posait également. Et Martin Luther King proposait donc des solutions très concrètes au peuple américain.
D'accord. Alors, René, l'engouement suscité par le Black Lives Matter après la mort de George Floyd est quelque peu retombé, hein, si on peut le dire. Est-ce que ce n'est pas un peu le problème du mouvement citoyen aux États-Unis? Ils ne mobilisent que lorsqu'il y a des cas hyper médiatisés.
Oui, Abdourahman, c'est vrai, on peut le dire pour les États-Unis, on peut le dire pour les autres pays du monde. C'est un problème sociétal. L'être humain se mobilise quand il est confronté à une situation particulière, à une situation qui remet en cause soit ses privilèges, soit tout simplement son existence ou sa dignité. Et bon, dans le cas d'espèce, c'est vrai que le mouvement est relativement retombé, mais disons plutôt, il a peut-être été relayé par d'autres formes de manifestations plus institutionnelles, plus organisées, plus politiques. Et l'un des résultats premiers, ça a été les élections de l'année dernière. Je pense qu'on ne peut pas ne pas lier le mouvement Black Lives Matter que nous avons vécu il y a 2 ans avec la manière dont s'est déroulée la campagne électorale, avec la victoire de Joe Biden, mais également avec la victoire de 2 démocrates en Géorgie, qui est un État rouge, comme on dit ici, et qui s'est essentiellement sur cette dynamique-là que les électeurs noirs ont surfé et ont permis, ont donné ces deux postes de sénateur et qui leur ont permis d'avoir en fait la majorité.
Est-ce que ce n'est pas aussi parce que il y a, d'après par exemple certains Africains-Américains qui sont conservateur, l'Amérique aujourd'hui a un tel niveau que la question des droits civiques n'est plus forcément une priorité. Vous êtes d'accord ou pas? Je pose la question rapidement, peut-être que Suleiman pourra réagir également.
Oui, écoutez, moi je pense pas, non, je dirais pas cela. Je pense que aujourd'hui la question est une question qui se pose. La preuve, c'est qu'au sein du Parti démocrate aujourd'hui, il y a cette contradiction entre ceux qui pensaient que la Maison-Blanche devait se mobiliser sur cette question du droit de vote beaucoup plus tôt. Et d'un autre côté, bon, la Maison-Blanche considérait que bon, il y avait d'autres priorités, la question du Covid, la question de la relance économique, et que ce n'est que maintenant que Biden et la Maison-Blanche se mobilisent sur cette question des droits de vote. Donc, je pense que...
Suleiman, votre réaction sur ça? Aujourd'hui, tout le monde peut aller à Columbia, à Harvard. Donc, comme le disent certains conservateurs, y compris des Africains-Américains.
Oui, non, c'est vrai que vous avez ce discours de conservateurs, y compris africains-américains, qui disent que les choses, de toute manière, vont mieux, que le combat pour des droits civiques a été largement gagné et qu'il n'y a donc plus lieu d'avoir des mouvements du type Black Lives Matter. Mais justement, aujourd'hui, la remise en cause, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, la remise en cause du droit de vote, va reposer le problème et faire en sorte qu'il y ait un certain retour à l'exigence que des droits civiques soient de nouveau sur la table et deviennent un moteur de la lutte. Parce que ce qui se passe, on le voit bien, c'est que elle est conservatrice du Parti républicain, estime que si elle n'a pas la majorité sociologique, il faut qu'elle réussisse à avoir une certaine majorité par les phénomènes de découpage, par la limitation du droit des minorités à voter, etc. Et ceci risque de redéclencher les choses.
D'accord. On va donner l'occasion à Marilyn de réagir à cette question en seconde partie. Alors, on va rapidement lire quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Hassan Omar Boulalé à Djibouti nous dit que le rêve de Martin Luther King n'est pas encore effectif avec ses violences raciales et bavures policières sur les communautés, sur la communauté afro-américaine, mais tout n'est pas perdu. Il faut mettre en place des lois qui protègent les biens, la vie et l'honneur des Africains américains. Laurent Lipassa Kananga en RDC écrit « La pérennisation des acquis servirait d'exemple aux nouvelles générations. Sa lutte est d'une importance capitale dans un monde qui était pris en otage par l'injustice, l'oppression et le racisme. » Et puis Mamadou Ouliba à Dakar nous dit que Martin Luther King restera inoubliable dans les cœurs de tous les démocrates patriotes jusqu'à la fin des temps. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. À ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à New York, Souleymane Bachir Diagne, auteur, professeur, philosophe à Columbia University, à Washington Marilyn Sifok, professeur de langue à Howard University et toujours à Washington René Lec, analyste politique. Je reste avec vous, Marilyn, on parlait un peu plus tôt de, disons, de l'importance aujourd'hui même des droits civiques. Certains estiment que ça ne doit plus être une priorité. Et votre réaction?
Alors évidemment, les réactions des différents États nous montrent que cela doit rester une priorité parce qu'il y a eu, comme vous le savez, toute une série de législations qui a été mise en place par certains États, par les États conservateurs, pour justement essayer d'éliminer carrément les droits civiques qui avaient déjà été acquis depuis déjà des décennies. Donc il s'agit maintenant de remettre la question sur le tapis une fois pour toutes et donc pas seulement la question des différentes lois qui ont été votées récemment pour essayer de limiter le vote des minorités, mais vraiment remettre en question le découpage électoral, remettre en question, parce que le découpage électoral, si vous voulez, c'est vraiment une manière très insidieuse d'essayer d'éliminer tous les acquis des années passées, des décennies passées. Donc la question que vous me posez ici, à savoir si c'est encore à l'ordre du jour, évidemment que c'est à l'ordre du jour. Ça devrait faire l'objet d'un débat, d'un grand débat national où les partis conservateurs devraient être interrogés par le public et s'interroger lui-même sur la finalité de ceux qui sont en train d'essayer de mettre en place.
Alors, Souleymane, cette année, la commémoration du MLKD s'est justement déroulée dans ce contexte politique assez différent. Est-ce que vraiment le droit de vote est menacé aux États-Unis 54 ans après la mort du Reverend King?
Alors, je crois que je vais reprendre le mot que notre collègue Marilyn vient d'employer, c'est le mot insidieux. Mmh. Le droit de vote n'est pas menacé, si vous voulez, frontalement. Mais il l'est de manière insidieuse parce que lorsque un parti politique en particulier décide de travailler à des découpages de circonscriptions électorales qui vont faire en sorte de noyer par exemple certaines communautés à l'intérieur de communautés plus larges pour changer le vote ou alors rendre le vote plus difficile pour visiblement certaines minorités parce que une loi par exemple aussi bizarre que l'interdiction simplement d'aller apporter de l'eau à quelqu'un qui fait la queue pour voter n'a de sens que si précisément vous voulez rendre plus difficile le vote dans certains points, et c'est-à-dire pour certaines populations. Par conséquent, il n'y a pas d'attaque frontale, ce serait impossible, mais il y a effectivement une manière insidieuse de faire en sorte que la majorité sociologique qui aujourd'hui pense plutôt du côté démocrate soit limitée par des mesures de découpage et des mesures législatives rendant le vote difficile pour certaines
communautés. Oui, mais René, les républicains disent par exemple que dans tous les pays du monde, il faut par exemple prouver son identité avant de voter et que les démocrates veulent justifier, utiliser en tout cas la question raciale à des fins politiques. Ont-ils raison ou bien c'est plus profond que ça?
Écoutez, l'argument comme ça, à première vue, semble être un argument de bon sens, j'ai presque envie de dire. Mais le problème, c'est qu'il aurait fallu démontrer qu'il y a eu une difficulté particulière dans le passé, ce qui n'est absolument pas le cas. Les États-Unis, il n'y a pas de problème de fraude électorale qui soit massive et qui puisse changer les résultats de l'élection. Il y a eu plusieurs commissions qui ont été montées. La dernière a été montée par Donald Trump dans le cadre de son administration, et il n'a jamais obtenu de résultats probants indiquant qu'il y a des problèmes de vote dans ce pays. Bien au contraire. Vous savez, Abdourahman, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a suggéré il y a 2-3 jours la création même d'une police spéciale pour le monitoring des élections. Le retour en arrière, le recul que nous observons aujourd'hui, il est absolument sans précédent. Dans votre reportage, vous avez parlé des 19 États qui, en 2021, ont voté 34 lois. Eh bien, pour 2021, c'est 152 lois qui sont proposées pour 18 États.
D'accord.
Donc, c'est vraiment un assaut insidieux, certes, mais relativement frontal d'un point de vue institutionnel et légal qui est mis en place.
D'accord. Malheureusement, on n'a que 3 minutes pour parler un peu de l'héritage de Martin Luther King et l'Afrique, la diaspora. Peut-être, Marilyn, en une minute, pour vous, si vous devez résumer un peu comment MLK, comme on le dit, qu'on l'appelle, est vu aujourd'hui dans le monde, particulièrement en Afrique et la diaspora, ce serait quoi pour vous?
Alors, Martin Luther King représente pour le monde entier une manière d'aborder des problèmes extrêmement épineux d'une société de façon extrêmement pacifique, avec à la clé des résultats tout à fait probants, puisque le combat de Martin Luther King, si vous voulez, c'est couronné de succès par le Voting Rights Act, le Civil Rights Act.
Et Suleiman, vous revenez du Sénégal. Martin Luther King, comme nous on l'a vécu dans les années 80, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Je le crois d'autant plus d'ailleurs que dans mon esprit, et je crois dans l'esprit de beaucoup, il y a une forme de superposition de deux immenses figures de notre temps, qui sont Martin Luther King et Nelson Mandela. Je crois que tous les deux ont illustré l'idée de personnalités qui ont parié sur l'humain et qui ont parié sur l'optimisme et qui ont parié sur la non-violence à une époque qui était une époque violente et une époque d'inhumanité. Et je crois que cet héritage-là est intangible et qu'il survivra au temps.
D'accord. Et René, que retenez-vous de Martin Luther King et le reste du monde, notamment l'Afrique?
J'adore cette image, j'adore cette superposition dont Bachir vient de parler, Martin Luther King, Mandela. Et effectivement, pour les deux, moi je crois que l'élément central, c'est la mobilisation. C'est la capacité qu'ils ont eue à mobiliser les gens, à mobiliser le peuple, à mobiliser les communautés. Et je crois que c'est ça qui reste d'actualité. Si l'on veut que la situation, qu'il y ait une certaine équité, qu'il y ait une certaine justice sociale, il va falloir que les populations, que les communautés noires et les autres minorités aux États-Unis se mobilisent fortement. Et cela est valable pour les États-Unis, mais c'est valable pour les autres pays, dans les autres populations dans le reste du monde.
Voilà. Merci beaucoup. Fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voaafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt sur VOA Afrique. Au revoir.